Audiolib présente L'hypnotiseur de Lars Kepler, lu par Thierry Janssen. Comme le feu, exactement comme le feu. Ce furent les premiers mots du garçon hypnotisé. Malgré des blessures mortelles, des centaines de coups de couteau au visage, sur les jambes, le tronc, le dos, sous les pieds, sur la nuque et derrière la tête, on l'avait plongé dans une hypnose profonde, dans l'espoir de voir ce qui s'était passé à travers ses yeux. « J'essaye de cligner des yeux, » dit-il d'une voix tremblante. « J'entre dans la cuisine. Mais quelque chose ne va pas. Ça crépite entre les chaises et des langues de feu lèchent le sol. » L'agent de police qu'il avait découvert parmi les autres corps dans la maison d'un lotissement l'avait cru mort. Il avait perdu beaucoup de sang, était en état de choc, et n'avait repris connaissance que 7 heures plus tard. Il était le seul témoin survivant, et l'inspecteur principal Yona Lina se disait qu'il serait peut-être en mesure de donner un signalement valable. L'auteur du crime avait eu l'intention de tous les assassiner. Il était donc tout à fait possible qu'il n'ait pas pris la peine de se cacher le visage pendant l'acte. Mais, si les circonstances n'avaient pas été si exceptionnelles, personne n'aurait jamais eu l'idée de faire appel à un hypnotiseur. Dans la mythologie grecque, le dieu Hypnos est un garçon ailé qui tient des fleurs de pavot dans la main. Son nom signifie « sommeil ». Il est le frère jumeau de la mort et le fils de la nuit et de l'obscurité. Le terme « hypnose », dans son acception moderne, est employé pour la première fois en 1843 par le chirurgien écossais James Braid pour décrire un état proche du sommeil caractérisé par une conscience aiguë et une grande réceptivité. S'il est aujourd'hui scientifiquement prouvé que presque tout le monde peut être hypnotisé, les avis diffèrent toujours quant à l'utilité, à la fiabilité et au risque de l'hypnose. Cette ambivalence est probablement due à l'usage abusif de l'hypnose par des imposteurs, des prestidigitateurs et les services de renseignement de par le monde. Techniquement, il est aisé de projeter quelqu'un dans un état de conscience hypnotique. Le défi consiste à contrôler son déroulement, guider le patient, analyser et traiter les résultats. Seule une grande expérience et de sérieuses compétences permettent de maîtriser réellement l'hypnose profonde. Dans le monde entier, il n'existe qu'une poignée de véritables experts médicaux de l'hypnose. Chapitre 1. Lundi 7 décembre, dans la nuit. La sonnerie du téléphone arrache brusquement Eric Maria Bark à son rêve. Sortant de son sommeil, il s'entend dire avec un sourire « des ballons et des serpentins ». Affolé par ce réveil soudain, son cœur se met à battre la chamade. Eric ignore ce qu'il voulait dire par ces mots. Il n'a pas la moindre idée du contenu de son rêve. Pour ne pas réveiller Simone, il se glisse hors de la chambre et referme la porte derrière lui avant de décrocher. Eric Maria Bark. Un inspecteur du nom de Yona Lina lui demande s'il est suffisamment réveillé pour assimiler une information importante. Pendant qu'il écoute l'inspecteur, ses pensées continuent à plonger dans le vide obscur laissé par le rêve.
« J'ai entendu dire que vous étiez compétent dans le traitement des traumatismes aigus, »
dit Yona Lina. « Ouais, » répond sèchement Eric. Il prend un calmant. L'inspecteur explique qu'il a besoin d'interroger un garçon de 15 ans qui a été témoin d'un double homicide. Malheureusement, il est grièvement blessé. Son état est instable. Il est inconscient et en état de choc. On l'a transféré cette nuit du service neurologique de Udinge à l'unité de neurochirurgie de l'hôpital universitaire Karolinska à Solna.
« Qui est le médecin de garde ?» demande Eric.
« Daniela Richards. »«
Elle est très compétente et je suis certaine qu'elle saura... »«
C'est elle qui m'a demandé de vous appeler. »
l'interrompt l'inspecteur.
« Elle a besoin de votre aide et c'est assez urgent. »
Eric retourne chercher des vêtements dans sa chambre. Le ray de lumière d'un réverbère tombe entre les deux stores. Simone est allongée sur le dos
et lui adresse un regard étrange, vide.
« Je ne voulais pas te réveiller, » dit-il à voix basse.
« Qui c'était ?»«
Un policier.
Un inspecteur, je n'ai pas retenu son nom. »«
Qu'est-ce qui se passe ?»«
Je dois aller à l'hôpital Karolinska. Ils ont besoin d'aide pour un garçon. »
« Il est quelle heure ?»
Elle regarde le réveil et ferme les yeux. Il remarque que le pli du drap a laissé des stries sur ses épaules couvertes de taches de rousseur.
« Dors maintenant, Sixane, » chuchote-t-il.
Eric emporte ses vêtements dans le vestibule, allume la lumière et s'habille rapidement. Une lame luisante en acier scintille derrière lui. Eric se retourne et voit que son fils a accroché ses patins sur la poignée de la porte pour ne pas les oublier. Bien qu'il soit pressé, Eric va jusqu'au placard, tire la malle et trouve les protège-lames. Il les accroche sur les lames tranchantes, pose ensuite les patins sur le tapis du couloir et quitte l'appartement. Il est 3 heures du matin, le mardi 8 décembre, quand Eric Maria Bark s'installe dans sa voiture. La neige tombe lentement du ciel obscur. Un calme absolu recouvre tout. Les lourds flocons s'étalent paresseusement sur la rue déserte. Il tourne la clé de contact et de douces vagues de musique envahissent l'habitacle. Miles Davis, Kind of Blue. Il roule à travers la ville endormie, depuis Lunkmagergatan, le long de Sveavägen jusqu'à Nordtull. Il devine la baie de Brunsviken, telle une grande ouverture obscure derrière le rideau de neige. Il pénètre lentement dans l'enceinte de l'hôpital, passe entre les pavillons annexes à Astrid Lindgren et la maternité, laisse derrière lui les services de cancérologie et de psychiatrie, et se gare à sa place habituelle, devant l'unité de neurochirurgie. Il sort de la voiture. Les lueurs des réverbères se reflètent dans les fenêtres du vaste complexe. Seules de rares voitures sont garées sur le parking des visiteurs. Les merles volent d'arbre en arbre, leurs ailes bruissent dans l'obscurité. Eric note que le grondement de l'autoroute n'est pas encore audible à cette heure-ci. Il introduit son laissez-passer, tape le code à 6 chiffres, entre dans le hall, prend l'ascenseur jusqu'au 5e étage et traverse le couloir. Les néons du plafond clignotent sur le lino bleu du sol, qui brille comme de la glace dans un fossé. Ce n'est qu'à cet instant qu'il ressent le contre-coup de la poussée d'adrénaline. Il dormait si bien que la douce sensation du sommeil n'a pas encore tout à fait disparu. Il longe le bloc opératoire, passe devant les portes de l'énorme caisson hyperbare, salue une infirmière et se remémore une fois encore ce que l'inspecteur lui a raconté au téléphone. Un garçon en sang, le corps entièrement tailladé, noyé de sueur, refusant de s'allonger, agité et assoiffé. On tente de lui parler, mais son état se détériore rapidement. Il sombre dans l'inconscience, son cœur s'emballe, et le médecin de garde, Daniela Richards, prend la bonne décision en ne laissant pas l'inspecteur parler au patient. 2 policiers en uniforme sont postés devant l'entrée de la salle N18. Tandis qu'ils s'approchent, Eric croit déceler une certaine inquiétude sur leur visage. « Peut-être sont-ils tout simplement fatigués », pense-t-il en s'arrêtant devant eux. Il regarde rapidement sa pièce d'identité avant d'appuyer sur un bouton. La porte s'ouvre en bourdonnant. Eric entre, serre la main de Daniela Richards et remarque les lignes de tension autour de sa bouche, le stress contenu de ses mouvements.
« Prends un café », dit-elle.
« On a le temps ?»«
J'ai maîtrisé le saignement du foie. »
Un homme d'environ 45 ans, jean et veste noire, tape sur la machine à café. Il a des cheveux blonds ébouriffés, les lèvres pincées, l'air grave. Eric se dit qu'il s'agit peut-être de Magnus, le mari de Daniela. Il ne l'a jamais vu, sinon sur une photo dans le bureau de Daniela. « C'est ton mari ?» demande Eric en le désignant d'un geste.
« Pardon ?»
Elle semble à la fois amusée et surprise. « Je pensais que Magnus t'avait peut-être accompagné ?»«
Non !»
dit-elle en riant.
« Tu es certaine ?»«
Je peux lui demander !» plaisante Eric qui commence à marcher vers l'homme. Le portable de Daniela sonne. Elle l'ouvre.
« Arrête, Eric !»
dit-elle en riant avant de coller le téléphone contre son oreille pour répondre.
« Oui, Daniela ?»
Elle écoute, mais n'entend rien.
« Allô ?»
Elle attend quelques secondes, lance un
« Aloha !»
plein d'ironie, puis raccroche. Elle referme le téléphone et rejoint Eric. Il s'est approché de l'homme blond. Le distributeur de café bourdonne et chuinte.
« Prenez un café !» dit l'homme en tentant de placer la tasse pleine dans la main d'Eric. « Non, merci. »
L'homme goûte le café et sourit. De petites fossettes lui creusent les joues.
« Délicieux !» dit-il
en essayant de nouveau de lui donner la tasse.
« Je n'en veux pas !»
L'homme boit encore un peu tout en observant Eric.
« Je peux vous emprunter votre téléphone ?» demande-t-il soudain. « Si cela ne vous pose pas de problème, j'ai oublié le mien dans la voiture. »«
Du coup, vous voulez emprunter le mien ?» lance Eric d'un ton sec.
L'homme blond hoche la tête et le regarde avec des yeux clairs, gris comme du granit poli.
« Vous pouvez de nouveau emprunter le mien, » dit Daniela.
« Merci. Je vous en prie. »
L'homme blond récupère le téléphone, le regarde et lance un coup d'œil à Daniela.
« Promis, je vous le rends, » dit-il.
« Vous êtes le seul à vous en servir de toute manière, » plaisante-t-elle.
Il émet un petit rire et s'éloigne.
« C'est forcément ton mari, » dit Eric.
Elle secoue la tête en souriant. Elle a soudain l'air très fatiguée. Elle s'est frotté les yeux et a étalé de l'eyeliner argenté sur ses joues.
« Tu veux que je jette un œil sur le patient ?» demande Eric.
« Volontiers. »
« Puisque je suis là, » s'empresse-t-il d'ajouter.
« Eric, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, je ne sais pas trop quoi faire. »
Elle ouvre la lourde porte silencieuse et il la suit à l'intérieur de la chambre chaude qui donne sur le bloc opératoire. Un garçon mince est allongé dans le lit. Deux infirmières pansent ses blessures. Une centaine d'entailles et de coups de couteau recouvrent la moindre parcelle de son corps. Sous les pieds, sur la poitrine et le ventre, sur la nuque, au sommet du crâne, sur le visage, les mains. Son pouls est faible, mais très rapide. Ses lèvres sont grises, comme de l'aluminium. Il transpire. Ses paupières sont serrées. Le nez semble cassé. Un saignement s'épand sous la peau tel un nuage noir, depuis le cou jusque sur la poitrine. Malgré les blessures, Eric remarque la beauté du visage. À voix basse, Daniela décrit l'évolution de l'état du garçon, quand soudain un bruit de coups la fait taire. L'homme blond est revenu. Il leur fait signe à travers la porte vitrée. Eric et Daniela échangent un regard et quittent la salle d'examen. L'homme blond se tient de nouveau près du distributeur de café grésillant.
« Un grand cappuccino !» dit-il à Eric. « Vous en aurez besoin avant de rencontrer le policier qui a trouvé le garçon. »
À cet instant seulement, Eric comprend que l'homme blond est l'inspecteur qui l'a réveillé moins d'une heure auparavant. Son accent finlandais était moins prononcé au téléphone, ou peut-être qu'Eric était trop fatigué pour le remarquer.
« Pourquoi est-ce que je devrais rencontrer le policier qui a trouvé le garçon ?» demande Eric. Pour comprendre pourquoi j'ai besoin de l'interroger.
Yona s'interrompt quand le téléphone de Daniela se met à sonner dans la poche de sa veste. Il le sort, ignore la main tendue de sa propriétaire et regarde rapidement l'écran.
C'est probablement pour moi, dit Yona en décrochant.
Oui?
Non, je le veux ici.
Ok, mais ça c'est pas mon problème.
L'inspecteur sourit en écoutant les objections de son collègue.
« Mais je suis sur un truc !» répond Yona.
La personne à l'autre bout du fil crie quelque chose.
« Je fais ça à ma façon !» dit Yona d'une voix calme avant de raccrocher.
Il rend son téléphone à Daniela et la remercie d'un signe de tête.
« Je dois interroger le patient » explique-t-il d'un ton grave.
« Désolé, » dit Eric, « je suis du même avis que le docteur Richards.
Quand pourrais-je lui parler ?
Pas tant qu'il sera en état de choc. »
« Je savais que vous me répondriez ça, » dit Yona calmement.
« Son état reste très critique, » explique Daniela. « La plèvre est endommagée, l'intestin grêle, le foie et... »
Un homme vêtu d'un uniforme de police maculé entre. L'inquiétude se lit sur son visage. Yona lui fait signe, s'avance et lui serre la main. Il dit quelque chose à mi-voix. Le policier passe la main sur sa bouche et regarde les médecins. L'inspecteur répète au policier que tout va bien, qu'ils ont besoin de connaître les circonstances, que son récit peut leur être d'une grande utilité.
« Bon, » dit le policier en s'éclaircissant légèrement la voix.
On entend sur la radio du véhicule qu'un employé de nettoyage a trouvé un homme mort dans les toilettes du terrain de sport à Tumba. On est déjà sur Rudingvegen. On n'a plus qu'à prendre sur Dalvegen et monter vers le lac. Mon collègue, Jan, entre pendant que j'interroge l'employé. On pense d'abord à une overdose, mais je réalise rapidement qu'il s'agit de tout autre chose. Jan ressort des vestiaires, livide, et me bloque le passage. « Il y a tellement de sang, il répète ça 3 fois. Puis il s'assoit sur les marches et... »
Le policier se tait, se laisse tomber sur une chaise et regarde fixement devant lui, la bouche entrouverte.
« Tu peux continuer ?» demande Yona.
« Oui. » L'ambulance arrive, la victime est identifiée et je suis chargé de prévenir la famille. Comme on est en sous-effectif, je dois y aller seul. Ma supérieure me dit qu'elle ne veut pas laisser partir Jan dans cet état, ce que je comprends.
Eric regarde sa montre.
« Vous avez le temps d'écouter ça, » lui dit calmement Yona avec son léger accent finlandais.
« La victime ?» continue le policier la tête baissée. « Il était professeur au lycée de Tumba et habitait dans le nouveau lotissement vers la colline. Sur place, personne n'ouvre la porte. Je sonne plusieurs fois. » Je ne sais pas ce qui m'y pousse, mais je fais le tour de la rangée de maisons. J'allume ma torche et je regarde par une fenêtre de derrière.
Le policier se tait, sa bouche tremble, et il se met à gratter l'accoudoir de sa chaise avec l'ongle.
Continue, s'il te plaît, dit Yona.
C'est vraiment indispensable, parce que je...
Tu as trouvé le garçon, la mère et une petite fille de 5 ans. Seul le garçon était encore en vie.
Pourtant, j'ai cru que... Je...
Il se tait, le visage terreux.
Merci d'être venu, Erland, dit Yona.
Le policier hoche rapidement la tête, se lève, passe distraitement la main sur sa veste tachée et quitte la pièce.
Ils ont tous été tailladés, poursuit Yona. De la démence pure. On les a retrouvés dans un état atroce. Ils avaient été frappés, poignardés, et la petite fille, elle était coupée en deux. Le bas du corps à partir de la taille se trouvait dans le fauteuil devant la télévision et...
Il s'arrête et regarde Eric avant de poursuivre.
Il semblerait que l'auteur du crime savait que le père se trouvait sur le terrain de sport. Il y avait un match, il était arbitre. L'assassin a attendu de se retrouver seul avec lui avant de le tuer. Ensuite, il a dépecé le corps avec une rare agressivité, puis il s'est rendu à la maison pour tuer le reste de la famille.
« Ça s'est passé dans cet ordre ?» demande Eric.
« C'est mon avis, » répond l'inspecteur.
Eric s'aperçoit que sa main tremble quand il la passe sur sa bouche. « Le père, la mère, le fils, la fille, » pense-t-il très lentement avant de croiser le regard de Yona Lina.
« Le meurtrier voulait exterminer toute la famille, » dit Eric d'une voix faible.
Yona esquisse un geste.
« C'est justement ça qui... Il y a un troisième enfant, la grande sœur, une jeune femme de 23 ans. Nous n'arrivons pas à la retrouver. Elle n'est ni dans son appartement à Sundbyberg, ni chez son petit ami. Il y a toutes les raisons de penser que l'assassin est à ses trousses. C'est pour cette raison que nous voulons interroger le témoin le plus vite possible.
Je vais aller faire un examen complet, dit Eric.
Merci, dit Yona en hochant la tête. Mais nous ne pouvons pas risquer la vie du patient en...
Je comprends. L'interrompt Yona.
Seulement, plus nous mettrons de temps à trouver une piste, plus le tueur aura de chances de retrouver la grande sœur.
Vous devriez peut-être analyser la scène du crime, dit Daniela.
C'est en cours.
Allez plutôt leur mettre la pression là-bas, dit-elle.
Nous n'en tirerons rien, dit l'inspecteur.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Nous allons trouver l'ADN d'une centaine, peut-être de plusieurs centaines de personnes sur les lieux.
Eric retourne auprès du patient. Il reste devant le lit, observe son visage livide couvert de blessures, sa frêle respiration, ses lèvres figées. Il prononce son nom. Un spasme douloureux contracte son visage.
« Joseph, » répète-t-il à voix basse, « je m'appelle Eric Maria Bark. Je suis médecin et je vais t'examiner. Tu peux hocher la tête si tu comprends ce que je dis. »
Le garçon reste immobile. Seul son ventre se soulève au rythme de sa respiration rapide. Pourtant, Eric est convaincu que le garçon a compris ses mots, mais que son niveau de conscience a ensuite baissé et que le contact a été rompu.